Bienvenue au balado Les Actus d'Alter. Vigile et Claire, un budget solidaire, pas militaire. Un reportage de Claire Comelio, correspondante en stage. Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale qui ont lieu tout au long du mois de novembre à travers le Québec, je me suis rendue à une vigile éclair qui a été organisée par le Carrefour de solidarité internationale le 4 novembre dernier à Sherbrooke. Le but de cette vigile, c'était de dénoncer la hausse des investissements en armement qui a été annoncée par Marc Carney récemment et qui se fera au détriment d'investissements en aide internationale. Et c'est dans ce contexte qu'a eu lieu ce rassemblement pour demander un budget solidaire et non un budget militaire. À cette occasion, j'ai pu discuter avec un certain nombre de représentants d'organisations pour comprendre les raisons de leur mobilisation lors de cette vigile, qui s'inscrit plus largement dans un contexte international général d'augmentation des budgets militaires, notamment encouragés par Donald Trump qui, lors du dernier sommet de l'OTAN, a annoncé qu'il attendait des pays membres de consacrer près de 5% du PIB national aux dépenses en termes de défense. Donc je vous invite à écouter ces différentes prises de parole pour vous permettre de mieux comprendre tous les enjeux qui se cachent derrière cette augmentation du budget militaire qui risque d'avoir vraiment des conséquences désastreuses sur la justice sociale. Bonjour, merci beaucoup de m'accorder cette entrevue. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre groupe?
Oui, moi, mon nom, c'est Marianita Amel, co-coordonnatrice à Solidarité Populaire Estrie. Solidarité Populaire Estrie est née d'une alliance entre le milieu syndical communautaire, étudiant, féministe et de solidarité internationale. Ça fait plus de 35 ans. Donc, des groupes qui ont décidé de se rassembler ensemble pour faire ce qu'on appelle la défense collective des droits. Donc, militer en faveur de plus de justice sociale, tant au niveau régional, mais que national, qu'international. Donc, on a beaucoup d'enjeux qui nous lient ensemble.
Merci beaucoup. Et donc, récemment, voilà, on a vu l'augmentation des dépenses militaires. Ça a été annoncé par Carney. Et il s'est engagé à atteindre donc, la cible des 2% fixée par l'OTAN pour cette année. Et donc, c'est une promesse qui coûtera 9 milliards de dollars aux Canadiens et Canadiennes. Et en plus de ça, il a donné son acquiescement à l'OTAN de consacrer donc 5% du PIB à l'armée d'ici 2035. Donc, dans cette décision, qu'est-ce qui vous indigne le plus? Pourquoi vous êtes contre en fait, l'augmentation des dépenses militaires et qu'est-ce qui fait que dans votre région, ça peut être une préoccupation? Est-ce qu'ils ont coupé des programmes
Oui, bien en fait, c'est très inquiétant. C'est une réorientation majeure là, au niveau de l'économie fédérale. Puis c'est une réorientation de l'économie qui se fait dans un contexte où c'est pas pour répondre à des besoins de la population. Tu sais, toutes les crises desquelles on parle, crise du logement, crise au niveau d'itinérance, au niveau des banques alimentaires, la justice climatique aussi, qui est comme quelque chose dont on parle plus. Donc, c'est une réorientation de l'économie sur une industrie militaire, principalement en raison de relations diplomatiques avec un gouvernement aux États-Unis, dans le fond, qui met une pression au niveau international pour une course à l'armement militaire. Donc, nous, ça nous inquiète beaucoup parce que, justement, tout ce qui est... aujourd'hui, Carney sortait dans son budget, il va diviser ce qui est les dépenses opérationnelles puis ce qui est les investissements. Mais ça a l'air que le monde, là, le peuple, là, on est des dépenses, nous autres, on n'est pas de l'investissement. Alors que nous, on prend justement une idée d'une société où est-ce qu'il faut investir dans la santé, dans l'éducation, on va investir dans le monde d'abord. C'est ça qui est primordial. Donc, alors qu'on demande des montants pour réussir à sortir de ces multiples crises-là, les gouvernements successifs, les demandes ne sont pas accomplies, mais cette fois-ci, on annonce même des coupures dans les différents ministères de 15%, ce qui est énorme. Donc, on a une crainte sur qu'est-ce qui s'en vient sur plusieurs programmes, comment ça va affecter la population directement. Le 5% misé par l'OTAN, un chiffre que j'aime ramener qui est assez frappant, ça va représenter plus du tiers du budget fédéral en 2035. Donc, 3 $ sur 10 qu'on va donner au gouvernement, ça va être pour mettre dans l'industrie de l'armement militaire. Donc, c'est vraiment pas dans la bonne direction où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est une direction dans laquelle il n'y a aucune prise de parole démocratique qui est possible. Qu'on investit dans des industries de milliardaires et d'ultra-riches, cet argent-là, elle s'en va dans leurs entreprises. Puis nous, on n'aura plus jamais un mot à dire sur ces contrats-là. Donc, nous, on valorise la démocratie. C'est pour ça qu'on est dans le lieu communautaire, dans la défense collective des droits. La démocratie, ça doit passer par le fait que les gens peuvent dire leur point de vue, peuvent faire valoir leur réalité pour orienter les décisions du gouvernement et non voir les ultra-riches orienter, eux, les décisions du gouvernement. Donc, c'est très inquiétant.
OK, ben merci beaucoup. Et finalement, voilà, pour élargir, on voit que ce qui se passe au Canada, c'est pas anodin. Ça s'inscrit plus largement dans un contexte international qui d'augmentation des dépenses militaires. Et c'est quelque chose qui est surtout poussé par Donald Trump, qui, au sommet de l'OTAN en juin dernier, a affirmé qu'il attendait de tous les États membres qui relèvent donc leurs dépenses de défense à hauteur de 5% de leur PIB. Et il y a plusieurs pays, et de plus en plus, qui se sont engagés à respecter cette demande de Trump. Comment vous réagissez face à ça et comment vous appréhendez la suite? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez qu'une mobilisation internationale serait nécessaire et s'unir contre ces demandes
Oui, mais je pense que la solidarité internationale est incontournable. Alors que nos sociétés sont basées sur les formats des gouvernements d'État-nation, les grandes entreprises multinationales, maintenant aussi l'intelligence artificielle, les Google et tout ça de ce monde, qui sont rendus des super puissants, super riches, eux sont partout, ils n'ont pas de frontières, ces entreprises-là. Donc, il faut amener un niveau de d'alliance internationale pour réussir à faire face à cette réalité de notre époque qui menace nos démocraties, qui menace nos populations, qui menace la diversité culturelle qu'on a sur cette terre. Puis dernièrement, il y a eu la mobilisation de la Marche mondiale des femmes qui avait lieu justement, je pense que c'était une belle démonstration. C'est un mouvement qui est parti du Québec à partir de la Marche du Pain des Roses en 1995 qui a donné naissance à un mouvement international, la Marche mondiale des femmes. On a été 11 autobus à partir juste de l'Estrie pour se rendre à Québec pour aller manifester pour cette journée-là importante de lutte, de rassemblement pour les luttes féministes. Donc, je pense qu'il y a aussi le côté international, c'est quelque chose aussi qu'il faut se connecter de plus en plus. Puis ça, c'est de se rappeler justement que ce genre de mouvement-là, où est-ce qu'il y avait quelque chose ici au Québec, au Canada, il y en a aussi ailleurs dans le monde. C'est quand on veut satisfaire ces liens-là, puis être capable de voir que tous les petits noyaux qu'on est un peu partout, on est aussi partout dans le monde. Il faut essayer de s'inspirer des luttes ailleurs, mais aussi de, pas juste s'inspirer des luttes, mais l'international, c'est aussi ici maintenant, c'est pas ailleurs. Là où on se parle, d'où viennent les produits, d'où viennent les matériaux de construction, les vêtements qu'on a, d'où viennent nos ordinateurs, les téléphones, tu sais, c'est de l'international. Je pense qu'on a tendance à banaliser le fait que tous les produits viennent de l'international, alors que d'un côté, il y a des discours qui vont être pour contrer la libre circulation des humains, des personnes migrantes, entre autres, dans des pays comme le Canada. Donc, tout nous ramène à l'international quand on veut faire ce lien-là, il est réel. Puis, je pense qu'on peut vraiment s'inspirer, puis il faut essayer d'unir nos luttes, ça serait là l'espoir qu'on a. Un avenir où ça ne sera pas juste les ultra-riches qui vont être l'héritage de notre société, mais qu'on va encore exister dans le monde.
J'ai eu le plaisir d'échanger avec quatre représentants d'organismes qui étaient présents lors de cette vigile, qui nous expliquent en fait les raisons de leur mobilisation et ce qu'ils défendent aujourd'hui à Sherbrooke.
Moi, c'est Nelly Coin-Arsenault, je suis coordonnatrice chez Illusion Emploi de l'Estrie. Fait qu'Illusion Emploi de l'Estrie, on est un organisme, dans le fond, on défend les travailleurs non syndiqués en Estrie. Donc, on accompagne dans les démarches au niveau des plaintes aux normes du travail, au niveau de défendre les droits, en fait, là, des travailleurs, leur faire connaître aussi leurs droits. Puis nous, ce qui nous inquiète, c'est vraiment au niveau de l'immigration, parce que la majorité de des personnes qu'on accompagne, c'est des travailleurs migrants. Donc, au fédéral, depuis quelques années, on voit qu'il y a des coupures au niveau de l'immigration, comme en août 2024, où Ottawa a imposé des restrictions sévères au programme des travailleurs étrangers temporaires. Ça incluait l'arrêt des EIMT, c'est comme les études de marché qu'on a besoin pour avoir des permis, dans les zones où le taux de chômage dépasse 6 % et la réduction des contrats de 2 ans à 1 an. Puis nous, ce qu'on voit, c'est des personnes qui ont payé des fois 16 000-20 000 $ pour venir ici, en dollars canadiens, alors que dans leur pays, ça représente énormément. Ils ont tout vendu, ils s'endettent, puis ils espèrent un meilleur avenir. Puis quelques mois plus tard, ils sont licenciés, ils ont des difficultés avec leur statut. Puis ensuite, ben, c'est que notre système économique, on peut pas se passer de ces travailleurs-là. Que ce soit les préposés aux bénéficiaires, les travailleurs agricoles, on a besoin d'eux pour que notre système fonctionne, mais on les traite comme si ils étaient de la marchandise. Puis c'est aussi très difficile pour ces travailleurs-là d'avoir accès à la résidence permanente, parce que souvent, ben, c'est un processus qui est hyper long, mais aussi qui est difficile pour les travailleurs étrangers temporaires qui sont non qualifiés, ce qui est la majorité d'entre eux, puis ceux qui ont affaire à nos services souvent. Pendant la pandémie, le fédéral avait aussi promis un plan de régularisation massif des personnes sans papier, donc des sans-statut. Et encore une fois, on est revenu sur cette promesse-là, donc c'est jamais arrivé. Puis ça, c'est un gros enjeu parce que souvent, quand tu es entre deux permis ou entre des fois un permis d'études ou un permis de travail, tu tombes dans une craque un peu où tu n'as plus de service, tu n'as plus de statut, ce qui fait que tu n'as plus accès à des soins de santé, tu n'as plus accès à rien. Puis dans le fond, ce qui est problématique aussi en ce moment, c'est que les migrants sont devenus un peu le bouc émissaire des politiciens. Là. On les accuse de la crise du logement, le chômage, l'inflation, c'est toute leur faute. Mais on oublie la contribution, tu sais, qui apporte à notre société, qui est essentielle. Puis, tu sais, c'est pas eux le problème de tous les maux. C'est un discours politique qu'on entend souvent, mais on a besoin de ces travailleurs-là, encore une fois. Puis nous, ce qu'on demande, Illusion Emploi, c'est vraiment des permis de travail ouverts pour tous et toutes, sans aucune forme de travail forcé via les permis de travail sectoriels ou régionaux. On veut une régularisation des sans-statut et on veut que les travailleurs migrants aient le droit à la résidence permanente puis qu'on favorise la réunification familiale aussi. Fait que c'est pas mal ça.
Gabriel Grégoire Mayotte de la Trovep de l'Estrie, la table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Estrie. On est un regroupement d'éducation populaire autonome et de défense collective des droits. On est réunis aujourd'hui, en fait, pour prendre la parole par rapport au recul démocratique et la justice climatique. En ce qui a trait au recul démocratique, là, on veut mentionner que ce budget-là et les dernières lois qui ont été adoptées seraient en réponse à ce qui se passe chez nos voisins du Sud. On aimerait rappeler que pour combattre les dérives autoritaires, on peut pas combattre les dérives autoritaires par la répression. On peut pas faire face à l'extrême droite et au fascisme en adoptant leur politique. On fait que l'ouvrir la porte en faisant ça. Face au cynisme et au recul démocratique, il faut plus d'instances démocratiques, plus de place aux citoyens et citoyennes, plus de transparence, plus de solidarité et d'entraide, et investir davantage dans nos communautés. La fausse démocratie amène l'apathie et l'apathie ouvre la porte aux dérives autoritaires. C'est ce qui s'est toujours passé. Donc, on invite les gouvernements, en fait, à viser sur plus de démocratie et non sur la répression. Aussi, on veut critiquer le projet de loi C-5 qui a été adopté en juin, qui est aussi une loi antidémocratique qui vient permettre de contourner toutes les protections pour l'environnement qui ont été mises en place afin de favoriser l'intérêt national. Tout d'abord, on souhaite souligner que l'intérêt national qui présente, c'est toujours le développement économique et le profit des grandes entreprises et des plus riches, alors que l'intérêt national devrait être le bien-être des populations. Donc, à cet effet, contourner les protections environnementales pour mettre en place des projets polluants, c'est complètement aller contre l'intérêt national. Donc, même si le gouvernement décide d'investir dans des mesures d'adaptation plutôt que de réduction des émissions de GES, on va se retrouver toujours avec plus de conséquences des pertes de qualité de vie pour les populations. On sait déjà que le budget qui nous est présenté aujourd'hui contiendra des sommes astronomiques pour le militaire, la police et la militarisation des frontières. Alors qu'on assiste à une escalade des violences et des tensions au niveau international et qu'il est nécessaire d'effectuer une transition radicale, juste et écologique, on souhaite rappeler qu'il faut faire face à la crise écologique, à la montée de l'extrême droite et à la violence institutionnalisée en mettant en place un budget et des politiques pour la solidarité et l'entraide, des mesures d'atténuation des émissions de GES et plus de transparence dans nos espaces démocratiques. Et finalement, conclure en rappelant que si on ne souhaite pas arriver à la même place que nos voisins du Sud, il faudrait commencer par ne pas emprunter le même chemin que les amener là.
Mon nom est Stéphanie Poveda. Je suis agente de projet pour CAF, donc Concert Action Femmes Estrie, qui est l'organisme qui regroupe les organismes féministes en Estrie. Et puis, dans le fond, on s'est mobilisé aujourd'hui parce que, étant donné la révélation du budget de Mark Carney, on trouvait important de mentionner, en fait, que le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres serait celui qui serait le plus touché par rapport aux autres ministères, qu'une réduction de 80% avait été prévue, que puis finalement, ça serait comme dans les 60. Dans tous les cas, on ne sait pas, et ça nous inquiète énormément, parce que démanteler ce ministère serait réduire les conditions de vie des femmes, réduire leur opportunité de participer à la vie économique des femmes. Et puis, ça serait aussi les insécuriser, les mettre dans des positions où elles seront face à des situations de violence. Donc, on trouvait important que ce soit dit, important que ce soit visibilisé. Et qu'on comprend pas, on est indigné en fait, parce que c'est le ministère qui est le plus touché. Puis, on se demande tout le temps pourquoi on est dans les dernières des priorités du gouvernement. Fait que, un petit rappel que la guerre et la militarisation dans laquelle le Canada veut embarquer et le budget qu'il veut augmenter ne sont pas neutres par rapport au genre. Que les dépenses militaires plus élevées entraînent souvent une réduction des dépenses civiles. Donc, on le voit par rapport au logement, on le voit par rapport aux autres postes ministériels. On trouve tout simplement que c'est inacceptable, puis on va pas rester silencieuse.
Donc, bonjour, je m'appelle Jean, je travaille à la table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie, aussi appelée la TACA. On est un regroupement d'organismes communautaires qui regroupe une cinquantaine de groupes membres à travers le territoire de l'Estrie. Et notre mission est de s'attaquer aux causes de l'appauvrissement de la population de la région. En fait, on est ici présent aujourd'hui pour revendiquer des meilleures mesures sociales, en fait, parce qu'on voit souvent en période d'austérité où le gouvernement demande à toute la population de se serrer la ceinture et qu'on est tous dans le même bateau pour excuser justement ces mesures-là. Eh bien, nous, on décrit ça, ce discours-là, parce que ce n'est pas vrai qu'on est dans le même bateau, ce n'est pas vrai que tout le monde vive la même situation et que l'impact du serrage de ceinture est pareil pour tout le monde, en fait. Juste au Québec, par exemple, au cours des 5 dernières années, on a vu les 20% les plus riches augmenter leurs revenus de plus de 50%. Donc, en 5 ans, ils ont vu leurs revenus augmenter de plus de 50%, je réitère. Tandis que les 20% les plus pauvres, eux, ont perdu 4% de leurs revenus au cours des 5 dernières années. Donc, c'est énorme, en fait. C'est ça, comme je répète encore une fois, on n'est pas dans le même bateau. Les inégalités explosent de plus en plus et des mesures d'austérité comme ça, d'un désinvestissement dans le filet social, ça va qu'amplifier ces problèmes-là. Puis en fait, là, je parlais seulement du Québec, mais le Québec est une des provinces les plus égalitaires à travers le Canada. Pourtant, c'est ça, à l'échelle du Canada, il y a des provinces qui sont beaucoup dans des situations pires, en fait. Et le bilan fin, en fait, qui est sorti le mois passé, soulignait qu'il y a un quart des Canadiens, donc un Canadien sur quatre, vivait de l'insécurité alimentaire. Donc, qui avait de la difficulté ou qui avait un stress relié à l'idée de se procurer de la nourriture. Et au-delà de 20 % de la population qui demande justement de l'aide alimentaire, les organismes ont un emploi. Donc, l'emploi, souvent, c'est ce qui est apporté de l'avant pour l'idée d'une sortie de pauvreté. Mais quand on dit qu'une personne sur cinq qui fréquente les banques alimentaires a un emploi, c'est que le système est profondément brisé. Il faut le repenser. Donc, ce n'est pas justement en investissant dans de nouveaux avions de chasse pour qu'ils puissent survoler les campements de tentes de personnes qui n'arrivent pas à trouver un logement abordable qu'on va résoudre ce problème-là.
Grâce à ces différents échanges avec ces représentants d'organisations, on comprend l'importance de se mobiliser contre l'augmentation du budget militaire qui va se faire au détriment d'un budget censé améliorer les conditions de vie de la population. Et plus largement, ce qui se passe au Canada, ça se passe aussi dans d'autres pays. Et ça questionne franchement sur le tournant que prend notre société qui s'enfonce de plus en plus dans un monde toujours plus armé, délaissant les investissements en aide internationale et plus largement tous les différents mécanismes de paix qu'on pourrait mettre en place. Merci encore à Marianita, Gabriel, Nelly, Jean et Stéphanie pour leur participation à ce balado.
Merci pour votre écoute.
Vous pouvez retrouver toute l'actualité du journal sur le site alter.québec où notre bulletin est publié toutes les deux semaines, sauf pendant les périodes de congé. À bientôt pour un nouveau balado!